Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yann.
Bon night.
Ah ouais, enregistré, ça fait 3 minutes qu'on te le dit là.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit:
t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la pangine.
Bonjour et bienvenue dans Saltemps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, un studio très bien rempli, j'ai le plaisir de retrouver Marie.
Salut.
Yannick.
Salut.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, celui qui va adorer gérer les niveaux de tous ses micros, c'est Alain.
Salut Clémence.
Ouh, tu satures un peu, va falloir le régler ton micro. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ah non, pardon, ça c'est un jour sans fin. Cette semaine, on vous parle de Boss Level de Joe Carnahan. Tout comme Bill Murray dans Groundhog Day, le héros du film est coincé dans une boucle temporelle. Sauf qu'ici, on parle plus de gros flingues que de gentilles marmottes. L'ancien agent des forces spéciales Roy Pulver revit inlassablement la même journée et chaque fois, il finit par se faire zigouiller. Pour stopper ce cauchemar éveillé, il doit trouver qui est responsable et l'arrêter. Le projet ne date pas d'hier, il semble même être resté bloqué un moment puisque Carnahan travaillait déjà dessus en 2012. Après 5 ans sans nouvelles, il refait surface quand on apprend que Franck Grillo et Mel Gibson sont en négociation pour apparaître au casting, bientôt rejoints par Naomi Watts, Ke Jeong et Michelle Yeoh. Le tournage a lieu en 2018, puis le Covid passe par là. C'est finalement Hulu qui décroche les droits pour une sortie aujourd'hui, le 5 mars 2021, directement en ligne, sans passer par la case ciné. En France, il sera disponible en DVD et Blu-ray dès demain, le 6 mars. La semaine dernière, on vous parlait de Palm Springs, qui traitait de ce thème de la boucle temporelle façon comédie romantico-philosophique. Est-ce que la version film d'action fonctionne aussi bien? Qu'en pensent nos chroniqueurs? Allez, je suis toute oui. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi, Stéphane?
Ah, moi, je l'ai trouvé juste avant qu'on enregistre, donc passe droit. Je vais dire passe droit pour commencer.
Passe droit, mystérieux.
Moi, je vais dire film de vidéoclub.
Vidéoclub, ok.
Décevant, alors.
Décevant.
Pas très original, mais bon.
Bon. Bien, les avis sont mitigés. En tout cas, tout le monde n'a pas l'air d'accord. On va voir ce que ça donne. Alors, t'avais peut-être pas de mots, Yannick, mais...
Ouais, tu peux commencer si tu veux. Moi, je dis décevant, c'est le premier mot qui me vient à la tête, tout simplement, parce que j'aime beaucoup le cinéma de Joe Carnahan, d'habitude. Et donc, forcément, même si ce type a eu des difficultés à faire certains films récemment, que même Stretch, si je m'abuse, était sorti directement en France en vidéo, voilà, moi, j'attends toujours ces films. Qui plus est, quand ça promet Mel Gibson, Franck Grillo, bon, c'est pas forcément notre acteur préféré, mais bon, c'est quand même un mec badass, on s'attend à un truc un peu vénère. Décevant, mais je dirais plutôt inégal. C'est-à-dire, il y a quand même des très belles choses. Joe Carnahan est un réalisateur qui arrive à la fois à jouer sur du référentiel, quand il réussit à faire de l'émotion, ce qui sauve un petit peu le film à certains moments. Bon, c'est une mécanique un jour sans fin qu'on a déjà vu tenter à plusieurs reprises. Moi, j'étais un petit peu flippé au départ du récit parce que on voit toute cette mécanique se mettre en place, on la connaît. Il y a une voix off, on est dans une espèce d'humour de décalage volontaire. Comme on l'a vu un petit peu des tonnes de fois, très pop. Moi, j'avais très peur, très honnêtement, quand ça commençait. Je me disais, bon, au moins, ça va peut-être bourriner un petit peu. Ça bourrine un petit peu. C'est pas complètement ouf. Le film se perd, mais Steph en parlera mieux, parce que je suis d'accord avec lui, à la moitié du récit. Et il se sauve par cette émotion qui est capable de véhiculer Carman. Pour moi, le meilleur exemple, même si on a toujours des meilleurs films comme... Territoire des loups, comme ses premiers films.
C'est pas dans
c'est non, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans un film comme L'Agence Tourisque, qui est tout sauf un film, j'ai envie de dire, estampillé Carman, tel qu'on l'imagine, il arrive malgré tout à créer des moments qui sont complètement incroyables. Moi, j'ai toujours souvenir dans ce film, par exemple, de la rencontre entre Hannibal et l'équivalent de Mr. T. Et c'est une espèce de scène complètement ailleurs dans ce film et qui donne une espèce d'émotion tout d'un coup qui est surprenante. Et ce qui se passe avec Boss Level, c'est un peu ça. On est dans une mécanique qu'on connaît par cœur. On est dans un humour, un décalage qu'on a déjà vu. C'est un film, moi je dis décevant parce qu'on voit malheureusement, c'est triste. Il y a tout pour que j'adore ce film. C'est du référentiel 80s en termes d'action, ça fait une sorte de métaphore sur le jeu vidéo, il y a Mel Gibson, il y a tout pour faire ça, et il n'empêche que très rapidement, c'est assez cheap. Moi, je trouve le film pas particulièrement bien monté, ce qui est quand même assez dramatique pour un film qui doit jouer sur ça, toute la mécanique de la journée qui recommence. C'est pas simplement un travail structurel sur le scénario, c'est aussi un travail de rythmique à l'intérieur même d'une scène. Quand moi j'arrive à la fin de ce récit qui est censé cristalliser les conflits et nous amener à des choses qui sont à la fois des enjeux mais à la fois du fun par rapport à ce que véhicule le film, donc son référentiel 80s, son référentiel de film d'action, je suis atterré de voir ce qui est fait de Mel Gibson dans le film. Je suis atterré de voir ce qui est fait de Michelle Yeoh dans le film. On fait venir Michelle Yeoh pour 3 minutes 30. J'ai rarement vu une scène aussi mal filmée avec Michelle Yeoh, une scène d'action aussi mal filmée que ça. Donc le film remplit pas...
C'est une scène d'entraînement.
C'est une scène d'entraînement, mais même si c'est une scène d'entraînement, pour un type qui convoque Michelle Yeoh pour une scène de kung-fu, le cadre, le montage... La chorégraphie, même si c'est 30 secondes, c'est indigne. C'est pas indigne de 90% des Charlots Hollywood. C'est indigne de Carman. C'est un mec qui connaît son cinéma. C'est un mec qui est dans le référentiel. Alors, par contre, ce qui sauve le film, c'est que, outre le fait qu'il y a quelques petites idées sympathiques de temps en temps, une vénéritude qu'on voit plus trop dans le cinéma aujourd'hui, il y a effectivement une émotion qui naît progressivement dans la deuxième partie du récit et qui est du coup qui marche parce qu'elle est vachement inattendue. En fait, quand on se tape une heure de film, on se dit bon, on va être sur ce registre-là jusqu'au bout. Et il y a une espèce de relation père-fils qui arrive à la fin du récit et qui du coup éclaire un petit peu l'intention du film dans son ensemble. Je vais pas dire le sauve totalement, mais en même temps nous permet tout d'un coup de se dire il y a des belles choses dedans, ce qui fait qu'on n'a pas envie de... Moi, j'ai pas envie de défoncer le film, c'est pas le but, je le trouve inégal, je le trouve décevant pour un Carman, mais il y a malgré tout des belles choses. Et puis ce qui est intéressant, j'ai trouvé, mais bon, ça c'est mon petit avis à moi, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à cette scène émotionnelle à la fin, c'est que ce qui apparaissait comme étant encore une fois du postmodernisme un peu poussif, du référentiel tel qu'on en voit pléthore aujourd'hui, c'est alors on va citer les années 80, on va citer le jeu vidéo, on va citer tout ça, ben finalement, je suis un peu long mais je finis, les scènes avec le gamin, l'importance qu'elles ont émotionnellement, m'a donné l'impression que tout le reste du film n'était pas du tout un jeu sur un jour sans fin, n'était pas un jeu sur le film américain d'action, n'était pas un jeu sur le jeu vidéo, même si évidemment on comprend pourquoi ça s'appelle Boss Level et pourquoi il y a du jeu vidéo dedans. Non, c'est vraiment un truc sur la vie, tout simple, et sur ce sentiment que dès le début du film, tous ces gens qui agressent ce personnage principal, c'est ce que nous, dans ce système, dans cette société, vivons. D'une agression permanente et que chaque journée est une journée qui se répète avec nos pressions, nos contraintes, notre boulot, des choses qui nous emmerdent et qui nous éloignent de l'essentiel. Et ce qui est assez marrant dans le film, c'est qu'on le voit pas venir, ça. Moi, je trouve qu'on le voit pas venir et que du coup, quand il arrive, c'est un vrai choc émotionnel dans la gueule qui fait qui donne plus d'importance à un film qu'on aurait sans doute trouvé encore plus décevant. Voilà. Donc grosso modo, heureusement qu'il y a ces qu'il y a ce passage là à la fin. Parce qu'à côté de ça, comme le dira Stéphane très justement, peut-être il l'aime trop par rapport à ce qu'il devrait l'aimer. Moi, je suis sympathique aussi par rapport aux critiques que je fais du film. Mais c'est vrai que putain, Mel Gibson, Michelle Yeoh, c'est chaud quoi. Et Naomi Watts, c'est chaud. Je vais pas parler de l'âge parce qu'on en a parlé. C'est pour moi, c'est pas une question d'âge. C'est une actrice qui a l'air morte à l'écran. Qu'elle ait 40, 50, 60 ans, je m'en fous. Il n'y a plus rien. D'abord, j'ai mis du temps à la reconnaître de manière incroyable. Puis surtout, c'était une actrice qui avait un regard, qui avait un truc. Là, elle est morte. Donc, on a des acteurs qui n'ont pas l'air à leur place, qui sont des acteurs mythiques pour beaucoup de gens, enfin, qui transportent, qui véhiculent un truc. Et là, moi, je suis tombé de 15 étages. Quand je les ai vus, je me disais, pourquoi tu prends Mel Gibson pour ça? C'est pas possible.
Ouais, ils sont complètement
C'est sous-exploité, grave. Et puis, je suis trop long, donc je laisse parler les autres.
Alors, une info intéressante, tu mentionnais le fils du personnage principal dans l'histoire.
Ouais.
Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est le vrai fils de Griot
Je ne savais pas du tout, d'accord, ok.
Ça ajoute une petite couche.
Ouais. Puis je pense, moi je suis père, donc c'est vrai que. Et puis j'ai un père d'un gamin exactement du même âge. Et ça marche vraiment bien, ça te touche. Ça te fait te poser des questions toi aussi. Donc rien que pour ça, c'est plutôt pas mal.
Donc finalement, c'est au moment où on sort de la logique de film d'action
exactement.
Que le film prend.
Le film marche quand il n'est pas ce qu'il prétend être.
Marie, t'es d'accord avec ça, toi ?
Oui, moi je suis à peu près d'accord avec tout ce que t'as dit. Moi je disais Vidéo Club parce que ça m'a fait penser à beaucoup de films d'action des années 80, avec un pitch assez classique et assez attendu. Et donc, je pense que quand tu regardes la bande-annonce, tu sais plus ou moins ce que tu vas avoir, ça te survend pas un truc. Et comme tu disais, cette deuxième partie, moi aussi, m'a étonnée et m'a fait adhérer au film et m'a redonné un petit regain d'intérêt parce que c'est vrai que la première partie est quand même assez répétitive, c'est quand même un pitch qu'on a déjà vu des dizaines de fois et je me suis dit si c'est ça tout le film, c'est un peu chiant cette progression qui, à un moment faut en sortir et j'aime bien comment il casse ça. Après je trouve que le film est quand même vachement premier degré mais plutôt dans le bon sens du terme parce que moi, je vois ça s'appelle Boss Level, il y a des trucs 8 bits au début, des trucs qui s'affichent sur l'écran, je me dis ça va être un truc qui va encore jouer sur la nostalgie des jeux vidéo et des trucs des années 80 et tout comme il y en a eu beaucoup récemment et c'est un peu relou et justement le film fait pas ça non plus en fait les jeux vidéo et la salle d'arcade sont utilisés dans la relation qu'il a avec son fils et il apprend à connaître son fils via ça mais c'est une toile de fond en fait, ils auraient pu se retrouver autour de je sais pas de faire de la pâte à sel ou d'autres trucs tu vois, non mais voilà ça, c'est une activité qu'ils font et j'ai trouvé que ces scènes où au final il se rapproche de son fils et ils s'assoient tous les deux sur un banc, ils regardent de l'eau en attendant la fin du monde. Je trouvais que c'était... Enfin, moi, ça m'a vachement étonnée parce que quand tu vois le début du film, tu penses pas du tout que ça va aller dans ce sens-là. Et bon, après, par contre, ce que tu dis sur le casting, moi, j'avais vu le casting et les castings de Kernan sont toujours assez fous. Et je me suis dit, en plus, tu vois, c'est... ces personnages de tueurs qui sont lancés après lui et ça m'a fait penser à Mise à prix qui est un de ces films où il y a un casting il y a que des tueurs à gages qui sont tous après un mec et tous les personnages sont tous joués par un casting qui est quand même assez cool et les personnages sont hyper haut en couleur en fait et là c'est plus du caméo en fait que des second rôles en fait on les voit très très peu c'est un peu des PNJ dans l'histoire
petites apparitions et puis
non, mais c'est vrai,
et c'est hyper décevant et Mel Gibson, j'ai l'impression qu'il fait le même rôle qu'il faisait dans Machete.
J'ai l'impression qu'il cache tout.
Ouais, non, mais c'est ça.
C'était qu'il cache tout, presque.
J'étais déjà déçu à l'époque de Machete, donc pour le coup, là aussi, c'est répétitif. Et tu dis, là aussi, faut en sortir parce que le film s'appelle quand même Boss Level et c'est censé être lui le boss final. Mmh. Et en fait, jamais t'as un vrai enjeu avec lui et même la fin. Tu vois, il rentre dans ce truc, on sait pas trop s'il se sacrifie, on sait pas trop s'il reviendra ou pas, mais je trouve qu'il y a pas tant d'enjeux que ça, et ouais, moi je me suis arrêtée sur l'histoire avec son fils, et moi, ma fin, là, quand tu regardes la fin du monde arriver, c'est ma fin, tu vois, j'ai décidé de m'arrêter là dans le film, en fait, voilà.
C'est vrai que Mel Gibson, alors, il a beau avoir un petit rôle, il a quand même réussi à déboîter la mâchoire de Franck Guillaume pendant les répètes...
Mais
de,
pourtant,
de
il,
scène de
il
combat.
Se donne deux coups de poing dans le film,
non,
c'est tout. Il y a même pas de baston, ce qui est pas possible.
Gibson, attends.
Peut-être que Griot a une mâchoire très fragile. Hein. Il l'avait prévenu en plus avant la répétition. Ils ont fait gaffe. J'ai des fragilités. Manque de bol.
Moi, c'est un des problèmes du film pour moi, Frank Grillo. C'est-à-dire, quand je dis passe droit, c'est vraiment que, effectivement, j'aime un peu plus le film que je devrais l'aimer parce que je connais le cinéma de Carnahan, parce que je sais en fait d'où vient sa bonne volonté, on va dire. Et je pense qu'il y en a clairement une quand il essaye de mettre Frank Grillo. Ils sont très très potes, hein, ils sont très très proches. Mais le problème de Frank Grillo, c'est que c'est pas un premier rôle, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on voit qui peut apparaître de manière sympathique. Je vais voler une formule à Alain, c'est lui qui me l'avait dit une fois. Et comme il peut pas parler, tu vois, j'en profite en fait pour. Bon, je le cite, c'est déjà pas mal, mais tu vois, je vais faire comme si c'était moi qui le disais. C'est un peu le prof de Pilate, tu vois, Frank Grillo.
Oui, non, mais c'est
quoi,
ça.
C'est un peu ça. Le mec où tu le regardes, tu te dis, ok, bah, il sent un peu la vanille, quoi. Et en fait, le truc, c'est que. Bah c'est vrai, il a un côté comme ça où en fait il essaye de jouer le gros dur.
Mais il a jamais l'air dur.
Donc qu'il soit se déboîter la gueule par Mel Gibson, ça m'étonne pas. Mais bref, non, je dis veille. Non mais le truc c'est que je pense que en fait c'est un problème parce que tout ce que vous avez dit sur tous les personnages secondaires c'est une réalité, c'est-à-dire dans le film, c'est-à-dire que en gros côté Naomi Watts, côté Mel Gibson qui sont des excellents acteurs. Qu'ils aient littéralement rien à jouer et que tout le film soit porté par quelqu'un comme Frank Grillo, qui a en gros. Son range émotionnel, en fait, ça va de rien à rien, quoi. Enfin, en gros, je veux pas être méchant, mais vraiment, le mec, il exprime rien, je trouve. C'est pas Steven Seagal, mais quand même, t'as envie de lui faire jouer un peu plus que ça, quoi. Enfin, t'as envie de lui dire, secoue-toi, quoi. Du coup, c'est un corps, le mec. C'est-à-dire qu'en gros, il se bastonne, il sait faire ça, plus que n'importe quelle autre star qu'on aurait dû.
Alors, il y a quand même tout le passage où, justement, il commence à en avoir ras-le-bol et qui tombe dans cette espèce de dépression.
Mais ça, je trouve que c'est une super idée en fait dans la façon d'utiliser le concept du film. C'est-à-dire que
ça,
en gros, moi j'aime bien, mais c'est parce qu'en fait le film te le vend bien, je trouve, plus que Frank Grillo à proprement parler, quoi.
Enfin, c'est quand même lui qui joue ce personnage qui est déprimé, qui veut plus sortir de son lit, qui se fait.
Ouais, mais ce passage-là, si tu regardes bien ce passage-là, il s'intéresse pas.
Il est sous la couette.
En fait, c'est que le montage et c'est que Carmen à ce moment-là.
C'est pour ça. Moi, c'est un problème parce que c'est surtout quelque chose. En fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui manque de charisme pour m'apporter le film sur les épaules comme ça et un film qui est quand même qui a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que déjà, c'est un film qui est conceptuel. Faut arriver quand même à vendre le truc, même si on a déjà vu Un jour sans fin, même si tout ça, etc., etc. Ça le prend différemment. Ensuite, c'est un film qui a des problèmes parce que de toute évidence, il n'y a pas de budget. C'est-à-dire qu'en fait, ça se voit que justement, s'il y a Mel Gibson à l'écran,
45 millions de dollars de budget.
Non, ça c'est faux. C'est ce qu'ils disent, mais c'est faux.
C'est trop cheap pour coûter 45 millions. Ou alors tous les acteurs ont tout pris, quoi.
Mais il y a eu le nombre de jours prévu initialement pour le tournage, c'était 43, et ils ont dû repenser entièrement le tournage pour qu'il tienne en 27 jours.
Ouais, donc le truc, c'est un tournage de série B, hein, vraiment. Hein, c'est-à-dire que je pense que 45 millions, c'est ce qu'ils disent pour essayer de vendre le film au marché, dans les marchés. Hein. Mais en vrai, et mine de rien, en fait, on connaît pas le budget exact, mais en fait, Carnahan, c'est vraiment à prononcer sur le fait qu'ils n'avaient pas d'argent en fait en faisant le film, que l'un des problèmes justement à l'époque en 2012 quand ils ont essayé de le faire et en fait, si vous suivez Carnahan sur les réseaux sociaux, il a mis une petite bande démo pour essayer de montrer la capacité de Grillo à jouer et le rôle qui était fait en 2012 pour essayer de convaincre les studios, et les studios n'ont pas été convaincus. Alors je pense pas parce que c'est Frank Grillo, mais parce que c'est pas une star, quoi, tout bêtement. Mais pour moi, je suis pas plus convaincu quand je vois la bande démo, en fait, de Frank Grillo. Et le souci, c'est que. Donc voilà, c'est un film qu'il a fait un peu contre vents et marées, qu'il voulait faire.
Et il voulait faire avec cet acteur-là,
avec cet acteur-là, je ne sais pas pourquoi. À part le. Oui,
mais apparemment, ils vont. Apparemment, ils vont.
Mais tu peux être pote et être objectif sur tes.
Voilà, ils vont refaire un autre, là. Dans un des projets, il y a un nouveau film avec Frank Grillo.
Ils ont une espèce de société War Party, en fait. Qui font des petits films.
Ah, mais c'est vrai que les deux l'ont produit, le film.
Voilà, c'est ça. En fait, du coup, ils ont une société où ils produisent plein de petites séries B comme ça. Ils essayent de faire des trucs et tout. C'est. Ce que j'en ai vu, c'est rarement très intéressant quand c'est pas Carnahan, justement, mais parce que c'est vraiment que de la production. Et le fait est que voilà, pour moi, c'est vraiment le premier souci, c'est-à-dire que vraiment avoir Grillo en fait en rôle principal pour porter le film, je pense que c'était pas le bon choix. Le deuxième problème, c'est que en fait, moi je suis très content effectivement que le film sorte de son concept, qu'il arrive à se renouveler. Qu'il arrive même à jouer avec ces trucs, l'exemple dont on a parlé sur les dépressions dont tu parlais, tu vois, c'est un excellent exemple parce que justement, pour le coup, c'est inattendu et ça retourne complètement un truc que nous, on peut connaître. C'est-à-dire, c'était toute la force d'Un jour sans fin et ça, il le touche du doigt. C'est-à-dire, dans ces moments-là, il touche vraiment ça du doigt. Par contre, ce qu'il n'a pas comme qualité d'écriture, pour le coup, sur Un jour sans fin, c'est il y a tout ce moment où c'est un peu, on en parlait la dernière fois sur Palm Springs, c'est un peu le problème que j'ai aussi avec Palm Springs, c'est un des rares, sauf que dans Palm Springs, c'est vraiment quasiment rien, alors que là, c'est vraiment un segment de 20 minutes. Il y a 20 minutes où, en fait, on te dit, bah, en fait, on va te raconter ce qui s'est passé la veille, en voix off, alors qu'il n'était pas présent. Donc déjà, en termes de narration, ça part un peu en cacahuète, quoi. Et en fait, on va t'expliquer de pourquoi, du comment, de en fait, ce que fait Naomi Watts pour qu'il se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Voilà.
Parce que dans le film, donc, Naomi Watts incarne la femme de Frank Grillo. Enfin, son ex-femme.
L'ex-femme, ouais.
Voilà, c'est ça. Et en gros, t'as quand même tout un truc, en fait, où ça patine dans la choucroute, alors qu'en fait, le film, il est censé avancer
et
en fait, être un vrai film d'action. Et par-dessus le marché, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec des scènes qui, pour moi, en fait, donnent du gras à Mel Gibson ou à Naomi Watts quand ils ont une scène de confrontation sur le canapé. Mais en fait, la scène, c'est, il l'a déjà fait 100 fois mieux, en fait, qu'Arnan, avec ce genre de dialogue et ce genre de truc, quoi. Tu sens que c'est, bon, alors, putain, il faut que je leur file quelque chose à bouffer, parce que je les ai 3 jours sur le tournage, et voilà, quoi. Et c'est problématique. Moi, Michel Io, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit mal exploité, mais au moins, elle arrive avec son bagage. C'est-à-dire que quand on te dit c'est Michel Io qui va lui apprendre à jouer le sabre, tu te dis ok, bon, c'est... en fait, ceux qui connaissent le cinéma d'action, ceux qui connaissent Michel Io, ils peuvent comprendre qu'elle est capable de lui donner le comment dire, le truc. Pour moi, c'est comme Gordon Liu dans Kill Bill, en fait. Tu comprends tout de suite que Gordon Liu, il peut apprendre à la marier, en fait, à se battre, parce que c'est Gordon Liu, quoi.
Non, mais ça, je conteste pas du tout. J'ai juste, tu fais venir la meuf pour 35 secondes qui sont pitoyables, quoi. Donc,
Mais au moins, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que la scène avec Mel Gibson et Naomi Watts, je la trouve pas cohérente du tout, en fait. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? T'as l'impression que c'est vraiment un truc qu'il a rajouté. Il s'est dit, ah, j'ai toujours voulu faire ce monologue. et il le remet, tu vois. Et en fait, ça colle pas ça fit pas dans le film, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, ça fait patiner le film. Alors que justement, il aurait gagné. Déjà, moi, je pense que. La méthode Un jour sans fin, c'est quand même la meilleure. Hein. T'as pas besoin d'expliquer pourquoi il y a une boucle temporelle. Tu vois, à mon sens, hein, tu vois.
Là, ils ont cherché quand même des explications scientifiques derrière. Enfin, c'est même la justification ultime.
Ouais, et puis c'est d'autant plus con. C'est d'autant plus con que au final, on est tous d'accord pour dire que la dimension relationnelle avec le gamin et l'émotion qu'elle porte et la boucle qu'elle boucle par rapport à un père absent, bah c'est le cœur en fait de ce qu'il voulait raconter au final. Et c'est ce qui se passe avec le l'ego du personnage de Bill Murray dans Un jour sans fin qui va rencontrer l'amour. Donc c'est Didier, hein, tu sais, c'est pareil, c'est toujours le même truc, t'as pas besoin d'expliquer pourquoi Chabaille devient un chien. C'est juste que le personnage a un problème et il le résout à travers un élément fantastique qui est un prétexte à faire ça. Il avait tout là-dedans. Pourquoi il t'allait se fait chier expliquer effectivement pendant un quart d'heure
À plus forte raison que justement dans Un jour sans fin, toute l'idée en fait d'Un jour sans fin, c'est que Bill Murray devienne la meilleure personne possible. Et là, en fait, si tu veux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que justement, en prenant par le truchement du jeu vidéo, la cohérence, en fait, si tu veux, de l'évoluer, les gamers, ils le comprennent, ça, quand, en fait, assez simplement, en fait, depuis, en plus, maintenant, 40 ans, t'as pas besoin de l'expliquer, c'est une petite série B, le film, tu vois, tu peux y aller. Donc, je trouve que, voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop de mal avec la scène finale en soi, c'est-à-dire que moi, s'ils expliquent pas si le mec revient pas, si... En fait, il y a juste la simple idée de prendre le risque de le faire me suffit, on va dire, surtout qu'on a vu des enjeux de fin du monde, des choses comme ça, etc., assez répétées. Donc je me dis pourquoi pas. En fait, je peux comprendre que le personnage se dise à ce moment-là, ça vaut le coup, j'y vais, j'ai tenté et on verra quoi. Tu vois.
Pour mon fils, voilà. Pour mon ex-femme.
Oui, c'est pas.
Ça me dérange pas plus que ça. Mais
c'était
par contre,
pareil que Le Territoire des Loups, enfin qu'un tout final, fait, dans, même, dans la même, le même logique.
Alors moins fort quand même.
Bah évidemment, voilà, on compare pas les deux films.
Non, mais Le Territoire des Loups, il y a une petite scène post-générique.
Mais qui est pareil en fait.
Qui une scène post-générique, mais bon, si tu sais pas non plus exactement
non,
ce qui s'est passé.
J'en avais parlé d'ailleurs avec
Mais parce qu'on s'en fout, c'est pas le sujet, tu vois, en fait, en réalité. Mais bon.
Carnan, il me disait, ouais, moi c'est un truc que je fais jamais en général, cette scène post-générique là dans Le Territoire des Loups. Il m'avait dit ça en interview, il m'avait dit, c'est un truc que je fais jamais, mais je me suis dit, bon, ça va, on n'est pas en train de montrer le marteau de Thor, donc je me dis, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas d'enjeu, tout va bien, on peut faire ce petit truc-là. Et c'est vrai que moi, en fait, ce qui l'intéressait, lui, c'est de savoir comment les gens l'interprétaient. Et je pense que c'est un peu la même logique sur la scène finale de Boss Level, quoi. Mais voilà, le cœur, voilà, effectivement, c'est sauvé parce que tu sens que, justement, et là, je compléterai juste ce qu'on disait sur l'action. Tout à l'heure, t'as dit, Clémence, en fait, c'est à partir du moment où l'action s'arrête. Et qu'en fait, Yannick aime bien le film. Mais moi, je dirais qu'en fait, ce que j'aime dans le film d'action, c'est justement quand c'est à ce genre d'émotion. C'est-à-dire que vraiment, en fait, et Carnan, en fait, c'est ce qu'il fait. Et quand il y arrive...
C'est super.
Voilà, quand il l'a fait dans Territoire des Loups, quand il l'a fait dans Mise à Prix, dans tous ces trucs-là, etc., c'est incroyable, quoi. Donc là, en fait, si tu veux, il n'aurait pas fait ça. ça serait que ce film concept, ça serait un gros problème. Mais voilà, pour moi, sachant d'où il vient, je me dis que bon, il a un passe-droit. J'espère quand même qu'il va un peu faire quelque chose d'un peu plus.
Après, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a jamais. C'est jamais un cinoche totalement vain, Carnan. C'est ça que j'aime. Quand bien même on lui demanderait. Tu vois, moi je cite toujours l'exemple de l'agence touriste parce que c'est quand même vraiment le film de commande, entre guillemets. Et quand bien même, il arrive toujours à donner un sens quelque part, il arrive toujours à donner un questionnement, une raison d'être au film qu'il fait. Et celui-là, malgré tous les défauts qu'il a, il a quand même cette petite raison d'être qui est malgré tout intéressante et qui fait que bon, moi je lui pardonne des trucs, même s'il y a des trucs littéralement impardonnables. Que les choses soient
claires. C'est pour ça qu'il a un passe-droit, en fait, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, il faut pas qu'il recommence.
Il a cramé son Joker.
Voilà, sinon merde.
Ça ira pour ça.
C'est pour ça qu'on va se passer.
Il a cramé son Joker.
On va cramer son film dans Sale Temps pour un film. Ouais.
Oui, donc il a cramé son Joker et on espère que le prochain sera plus réussi.
Bah ouais.
Et puis on espère que le prochain sera pas dans... Parce que Stretch, son dernier film, c'était 2014, je crois. Donc c'est beaucoup d'attentes aussi pour un film qui est quand même pas fou non plus, quoi.
Bah, au Stretch, tu veux dire Boss Level ?
Ouais, pour Boss Level, ouais. entre Stretch et Boss Level, il y a 6 ans, 7 ans. Ouais.
Mais il a fait de la télé. Là,
ouais. Faut se lever pour l'avoir vu aussi, Stretch, hein, parce que c'est un peu le souci. C'est quand même, en fait, le truc de Carnan, le problème de Carnan, c'est que c'est quelqu'un qui avait un énorme potentiel aux yeux des studios au début des années 2000 avec Narc, et qui en fait.
Mais je crois qu'il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté à l'évolution du Siloche. Il a. Enfin, moi, j'avais regardé des making of. Tu vois l'état d'esprit qu'il a, le mec. C'est pas l'état d'esprit que les mecs veulent avoir aujourd'hui. C'est justement pas un type qui va penser politique avant de penser cinéma. C'est pas un type qui va penser militantisme avant de penser cinéma. C'est pas le mec qui va faire une pause idéologique avant de penser cinéma. Il va toujours essayer de raconter des choses. Au fond, même à travers le côté pop que peuvent avoir ces films postmodernes, il y a toujours un questionnement sur quelque chose de profondément humain. Alors qu'aujourd'hui, on prétend dans le cinéma te parler de choses humaines, mais on ne te parle que de posture idéologique. Donc c'est tout le problème. Ce mec-là ne fit plus avec la façon dont Hollywood se pense aujourd'hui.
Oui, parce qu'en fait, il y a autant de projets, je pense qu'il y a autant à dire sur les projets qu'il a menés à terme que sur ceux qu'il n'a pas, pas menés à terme, parce qu'il y a 1000 trucs qui ont été annoncés, il écrit les scénars, et puis finalement, c'est pas lui qui réalise et tout, et il y a tellement de choses qui ont été annoncées et qu'il n'a pas faites et qu'on aurait voulu voir faites par lui, quoi.
Alors là, je sais pas, j'ai entendu dire que... Mais alors, peut-être c'est mort, hein, j'en sais rien, mais qu'il était censé faire le remake de Red. Tu sais, le film de Gareth Evans.
En fait, il a fait un film avec Gérard Butler qui est tourné, hein.
Oui, voilà, ça j'ai vu ça.
C'est juste qu'il y a Gérard Butler.
Mais moi, je pense que
en fait, si tu veux.
Non, mais c'est marrant.
Moi, je préfère encore Frank Grillo.
Mais
en vrai.
Ouais, mais c'est un mec. Mais enfin, je sais pas. Mais c'est un mec qui peut-être gagnerait à essayer d'aller faire des trucs dans votre pays, peut-être, ou avec d'autres types de producteurs, plutôt que de rester dans cette logique américaine où là, en ce moment, il fera rien. Hein. Parce que le cinéma qu'il veut faire, ce n'est pas le cinéma que veut Hollywood aujourd'hui, c'est le cinéma que nous, on a fantasmé. Mais c'est plus celui-là aujourd'hui.
En fait, il y a quelques stars, justement, comme Gérard Butler, qui peuvent se permettre de faire des polars ou des trucs comme ça, et du coup, en fait, ils se greffent là-dessus, tu vois.
Oui, mais ça va devenir du bis, même budgétairement. Ah, que tu regardes Boss Level, quand tu vois les effets spéciaux de Boss Level, ça fait quand même super mal. Là, on est dans du direct ou DVD, quoi, tu vois, donc... Bon.
Alors, on a quelques nouvelles sur le remake de Red, justement, qui sont sortis là très récemment. On connaît le titre déjà, ça s'appellera Zeno. Ça sera pas exactement un remake, il y aura quelques petits changements par rapport à l'original. Et ben, je suis désolée de vous l'annoncer, mais c'est Frank Grillo qui sera le héros et la star du film.
Mais c'est Carmen qui le fait quand même alors.
C'est Carmen qui le fait.
Ah, donc il le fait. Ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'un mec comme Gareth Evans, qui fait des prods à l'international, qui n'est pas ciblé américain, il fait des trucs en Angleterre, il fait des trucs en Asie. Moi, je trouve que ça peut lui offrir une liberté qu'aujourd'hui, à Hollywood, il n'arrive plus à trouver. Donc, c'est bien, à la limite, s'allier avec des mecs comme ça et essayer de faire des trucs un peu vénères, un peu cool, en dehors de Hollywood, moi, je trouverais ça plutôt pas mal. Hein. Même si, bon, voilà, on aimerait qu'il revienne à faire des trucs peut-être plus nobles, mais bon, c'est déjà ça, quoi.
Ouais, je pense que le truc, c'est que The Red, de toute façon, personnellement, je sais que je vais faire hurler les gens, mais je trouve ça à chier. Donc,
il
peut pas faire pire. Donc, voilà, bref.
Mais voilà.
voilà. Et pour le coup, The Red, c'est vraiment l'antithèse de ma conception du cinéma.
Non, mais peut-être même en termes de mise en scène, j'entends tout ça. Mais c'est des films qui peuvent être faits en dehors d'Hollywood. Moi, c'est ça qui... Le seul truc qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est de me dire comment je pourrais retrouver le Carmen que j'aimais, qui a les moyens de le faire et pas être obligé d'aller faire dans des tout petits trucs cheap qui mettent 5 ans à sortir pour 2 balles. Tu vois, c'est juste ça. J'aimerais que, voilà, qu'on lui redonne les moyens de faire quelque chose de vraiment cool, quoi.
Bon, alors, avant de jouer les Madame Irma sur les prochains films... Ce film-ci, Boss Level, au final, est-ce qu'on le regarde ou pas? Est-ce qu'on achète le DVD et le Blu-ray?
Oula, acheter le DVD et le Blu-ray, là, tu passes la barre haut. Mais t'es fan de Carmen, c'est bien de le voir. C'est quand même bien de le regarder. Faut aimer Carmen. Après, moi, on en parlait tout à l'heure. Hein. Moi, je pense qu'un film comme ça, je suis pas sûr que le public actuel, il soit très acheteur. Hein. Mais je me trompe peut-être.
Ouais, ouais, bah moi je le recommande quand même. C'est pas le plus grand des Carnan, mais oui, comme tu dis, si t'aimes bien Carnan, tu le regardes. C'est pas celui qui te restera. C'est pas du niveau de Narc ou du Territoire des Loups, mais c'est Carnan mineur, c'est quand même un Carnan.
C'est ça.
C'est quand même un Carnan, Stéphane.
Et c'est-à-dire qu'en fait, on en a beaucoup quand même parlé des défauts parce qu'il y en a, et ils sont assez flagrants, ils sont assez visibles. Maintenant, moi, ce qui m'en reste, en fait, c'est que ça reste quand même un film sympathique. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai du mal à détester, c'est un film que j'ai du mal à voilà, je peux pas le recommander de manière, on va dire, j'aurais aimé le recommander de manière totalement décomplexée, mais c'est difficile. Moi, je trouve mon compte là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous...
C'est pas un film qu'on va se remater dès le lendemain en disant c'est méga cool. Je vais attendre quelques années si je dois le revoir, tu vois, mais
donc,
voilà.
Donc si vous êtes vraiment fan de Carnan, pourquoi pas? Sinon, attendre peut-être la suite ou revoyez Palm Springs à la place, dans un autre genre. En tout cas, il sort demain le 6 mars en Blu-ray et en DVD. Et vous en pensez quoi? Un petit mot, une courte phrase, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Palm Springs, donc une histoire de boucle temporelle aussi, mais cette fois-ci façon rom-com. Et le film avait réussi l'exploit de décrocher un avis positif à l'unanimité dans l'équipe. Mais Alain, dis-nous tout, les auditeurs, eux, ils en ont pensé quoi?
Salut Capture Mag, je viens de voir Palm Springs et ce film fait complètement écho à ma vie puisque je vis au Canada et je travaille à la maison depuis un an suite à la pandémie. En octobre, j'ai rencontré ma copine en période de confinement et de couvre-feu dont nous ne sommes toujours pas sortis à l'heure actuelle. Comme les héros du film, je me demande comment sera notre relation à la sortie de cette boucle temporelle dans laquelle nous sommes ensemble depuis 5 mois.
Le film est pas trop mal. Par contre, l'introduction des personnages était un peu relou. Le show don't tell n'était pas du tout appliqué. Ça faisait genre, j'ai ces sentiments-là, c'est pour ça que je fais ça. Sinon, c'est pas mal.
Palm Springs, c'est bien. Cette histoire de boucle temporelle est bien exploitée, c'est drôle, c'est efficace. On a une intrigue qui rebondit plusieurs fois de façon intelligente. C'est un film bien plus riche et complexe qu'au premier abord.
Bonjour Capture Mag, pour parler du film Palm Springs. Belle surprise, d'autant plus belle que si vous faites comme moi... et que vous n'avez pas vu de bande-annonce ou lu de synopsis avant le visionnage, vous vous demandez un petit peu ce qui se passe quand Niles commence à danser avec les invités sous le regard éberlué de notre chère Sarah. Donc un super film, très rafraîchissant en effet. Je dirais le seul petit bémol, c'est la fin. On n'a pas forcément besoin de voir l'après-grotte.
Palm Springs, alors autant j'adore Andy Samberg dans le SNL ou même dans Brooklyn Nine-Nine, autant là, hormis le fait que de coincer plusieurs personnages dans la boucle temporelle, c'est assez sympa. Dans la mise en forme, je trouve que ça se la pète un peu, clip de son groupe Lonely Island, version sérieuse, un peu Sundance, électro-chic, foireux, j'aime pas trop. Et en plus, Andy, à 42 piges, là, joue les ados dépressifs. Je trouve que ça le fait moyen. Voilà, à plus tard.
Palm Springs. Bon, j'ai peut-être trouvé une incohérence temporelle. Il y a une scène qui, pour moi, ne tient pas. C'est lorsque Niles plonge dans la piscine et qu'on réalise que cette dernière a été remplie d'essence, qui sera évidemment enflammée par Roy. On sait que Roy habite à plusieurs heures de lieu du mariage, or Niles commence sa journée en allant dans la piscine. Donc soit c'est une petite erreur et pour l'humour, eh ben, on laisse passer, soit ça veut dire que le cycle temporel de Roy commence la nuit, et ce qui lui laisserait peut-être le temps d'être là dès le matin, bon, même si c'est peu probable. Bon, c'est vraiment pour chipoter parce que j'ai trouvé ce film très bien. C'est rafraîchissant comme une canette à boire au bord de l'eau.
Salut Capture Mag, je voulais vous remercier pour la découverte de Palm Springs. Franchement, super film, j'ai passé un super bon moment. Pas une séquence en trop, vraiment, c'est du début à la fin, un pur bonheur. Et ça fait du bien, effectivement, en ce moment, on n'en a pas trop. Et big up à Eric pour ses analyses et critiques que j'apprécie particulièrement. Voilà, mais un grand merci à toute l'équipe, vraiment cool vos podcasts. Continuez comme ça, à plus.
Ah si, dernière chose et je vous laisse tranquille. Aucun des invités n'a parlé de la BO. Et la BO est très cool, mine de rien. Surtout, il y a Queen, Kate Bush et notre cher Demis Roussos. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil.
Donc ce film m'a beaucoup touché. Ça n'a pas été tant que ça de la science-fiction pour moi. Et c'est ça qui le rend encore plus savoureux et profond. Et je pense qu'il va me marquer pour longtemps.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Yannick, Stéphane, merci pour vos avis éclairés.
Merci Clémence.
Merci à toi.
Merci.
Pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.